Bonjour et bienvenue sur le podcast 2 à moi, un podcast pour les futurs mariés qui souhaitent rendre leur cérémonie laïque inoubliable, émouvante et pleine de sens. Je suis Hélène, officiante de cérémonie laïque, décoratrice de mariage et fondatrice de l'agence de l'événement dans l'air. Avec 2 à moi, je vous propose à travers des conseils, des récits et des interviews de découvrir la cérémonie laïque sous un autre jour. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast 2 à moi. Lors de la saison 1, j'avais fait un épisode pour les rituels et je vous en avais expliqué 3. Pour petit rappel, n'hésitez pas à retourner écouter cet épisode-là si vous souhaitez. Mais pour le rappel, dans une cérémonie laïque, vous pouvez, si vous le souhaitez bien sûr, faire des rituels pour renforcer, symboliser, accentuer l'union, l'engagement que vous souhaitez faire. Alors les rituels, c'est surtout pour en effet l'engagement et l'union du couple, mais ça peut aussi être l'occasion de faire l'union de la famille, pour faire des messages à son entourage, pour renforcer le lien avec les témoins, pour leur donner un rôle tout particulier, etc. Donc aujourd'hui, je vais en profiter pour vous faire 3 nouvelles explications de ces rituels. Mais avant de commencer, en préparant cet épisode, en fait, j'ai refait. Alors, au moment où j'enregistre, on est en juillet 2023 et je suis à peu près au milieu de ma saison 2023 de cérémonie laïque. Et en fait, en reprenant toutes les cérémonies depuis avril 2023, je me suis rendu compte que sur de nombreuses cérémonies, les mariés avaient finalement choisi de ne pas faire de rituel. Alors, quand je dis de ne pas faire de rituel, bien sûr, et comme presque à chaque fois, j'ai le rituel des alliances qui est un rituel à part entière. Après, on peut aussi considérer que la cérémonie laïque est un rite à part entière, est un rituel à part entière. C'est un rituel de passage du statut célibataire, entre guillemets, à statut de marié. Même si pour beaucoup, vous vivez déjà en couple depuis longtemps et un moment, donc le côté célibataire n'est pas le bon terme, mais vous voyez ce que je veux dire. Et en fait, de plus en plus, donc, les mariés, de plus en plus, je ne sais pas si c'est une tendance ou si c'est on tendra vers ça, mais en tout cas, je me rends compte que de nombreux mariés choisissent de ne pas faire d'autres rituels dans la cérémonie laïque. Alors, je dois avouer qu'au début, ça me surprenait un peu. C'était pas les codes que j'avais appris. Je savais pas trop comment réagir face à ça. Et puis, en fait, au fur et à mesure des échanges avec les mariés, et puis moi aussi, au fur et à mesure de mon évolution, je me suis rendu compte que c'était pas le plus important. Les rituels, c'est chouette, c'est joli, ça fait de belles photos. Mais finalement, qu'est-ce qui est le plus important? Le plus important, c'est de comprendre pourquoi on le fait, si on choisit d'en faire. Pourquoi, comme souvent, je pose aussi la question de pourquoi vous vous mariez? Quelle est la vraie raison pour laquelle vous vous mariez? Qu'est-ce que vous en attendez? Qu'est-ce que vous espérez? C'est un peu pareil avec le rituel. Et en fait, c'est aussi comme ça qu'on choisit nos rituels. C'est-à-dire que qu'est-ce qu'on a envie de dégager, de ressentir dans cette cérémonie pour choisir le rituel qui nous correspond. Et en fait, de nombreux mariés se rendent compte que les gestes, on va dire, habituels, ceux qu'on voit souvent, des rituels qui sont assez communs, ne leur correspondent pas, ne font pas sens chez eux et préfèrent ne pas en faire plutôt que d'en faire juste pour en faire. Donc, comme je le disais, c'était quelque chose au départ qui m'interpellait, qui me surprenait. Et puis finalement, au fur et à mesure des échanges avec eux, j'ai compris pourquoi, comme je le disais, j'ai compris pourquoi ils faisaient ce choix-là. Et en fait, je me rendais compte, moi, ce qui me faisait peur, c'est que du coup, j'allais devoir parler beaucoup plus. J'allais devoir faire des textes beaucoup plus longs d'explications parce que, alors c'est pas dans l'idée de combler, mais du coup, j'avais plus de place pour aller plus loin peut-être dans le couple, dans leur histoire, dans ce qu'ils ont ressenti. Parce que parfois, dans certaines cérémonies, quand il y a beaucoup de rituels, du coup, ça laisse moins de place peut-être à certaines interventions ou à aller plus loin dans certains sujets si on veut pouvoir rester quand même dans un temps raisonnable de 45 minutes, une heure de cérémonie. Et puis les derniers temps, je me suis rendu compte que ça débordait un petit peu au-delà d'une heure. Donc je trouve qu'il est important quand même de respecter les timings parce qu'il y a d'autres prestataires autour qui attendent aussi le mariage et qui sont calés sur les horaires qui sont prévus. Donc à moi aussi dans la cérémonie de faire attention que ça n'explose pas les compteurs et qu'on n'aille pas trop loin. Donc en fait, le fait d'enlever ces rituels m'ont permis sur certaines cérémonies d'aller plus loin dans les discours, d'aller plus loin dans les textes. J'ai même eu, mais du coup là on sort un peu de l'idée du rituel, mais j'ai même eu un couple qui ne souhaitait pas avoir d'intervenant ce jour-là. Alors pas qu'il n'ait personne qui souhaite intervenir, pas qu'ils ne souhaitent pas leur proposer, mais les circonstances ont fait dans leur vie intime que il y a eu un décès quelques semaines avant et donc c'était pas opportun de faire intervenir des gens pour les mettre mal à l'aise ou les mettre face à une situation où ils devaient peut-être se sentir obligés de parler de cette personne, etc. etc. Donc, je me suis retrouvée en effet avec une cérémonie où c'est moi qui parlais principalement pendant toute la cérémonie. Et finalement, on a pu aller beaucoup plus loin qu'on ne pensait. Bon, c'était pas l'idée de départ, mais je voulais quand même vous rappeler que les rituels, ce n'est pas quelque chose d'obligatoire et que surtout, faites-en si cela fait sens pour vous, s'il y a un lien avec votre histoire, s'il y a un lien avec vos passions, avec votre famille, peu importe, mais prenez le temps de chercher ce qui vous correspond vraiment et ce qui fait sens. Donc pour commencer, je voudrais vous parler d'un rituel que je fais très régulièrement parce que ça amène du dynamisme et du punch dans la cérémonie. C'est le rituel du meilleur et du pire. Alors, pour ceux qui le connaissent peut-être, c'est un rituel qu'on fait souvent pour les couples. Mais moi, j'aime bien plutôt le faire avec les témoins pour apporter un peu de piment, apporter un peu de fun et d'originalité dans la cérémonie. Donc en fait, ce rituel, c'est l'idée de faire goûter aux mariés, et donc souvent je propose aux témoins, de faire goûter quatre saveurs qui symbolisent les quatre états et quatre émotions qu'on peut vivre ensemble au quotidien. Des choses qu'on peut, dans les relations humaines, qu'on peut vivre, qui sont parfois des situations difficiles, parfois des situations de joie, parfois des mots un peu de travers, parfois des choses incomprises. Et donc, on incite comme ça les témoins et les mariés à goûter ces quatre saveurs pour leur faire passer une sorte de test. Et puis, pour leur donner l'idée que ils vont maintenant s'accompagner les uns les autres pendant la suite de la vie du couple et que les témoins seront là pour les accompagner, pour les soutenir, pour les aider s'ils en ont besoin. Et inversement, parce que être témoin ne suffit pas, n'est pas juste dans un sens et être là pour le couple, c'est aussi, je trouve, une relation le couple vers ses témoins aussi, parce que voilà, ça veut dire qu'il y a un lien très particulier et quelque chose qui est de très spécial qui les unit tous ensemble. Donc voilà, l'idée c'est de faire goûter quatre saveurs à ces personnes-là. Et donc, les saveurs sont le miel, pour la douceur de la vie, pour la joie, la simplicité, ce qu'on peut vivre au quotidien, la tendresse. Le vinaigre, pour le côté des fois un petit peu âcre, le côté des mots qui peuvent aller un peu de côté, qui ne sont pas bien compris, qui sont un petit peu difficiles à avaler. Ensuite, on leur fait goûter du citron, ce côté pétillant, peps, qui amène vraiment un peu de modernité, d'envie, d'échange ensemble. Et puis enfin, on leur fait goûter du piment pour, certes, c'est aussi pour rigoler et avoir des jolies têtes sur les photos, je vous avoue, mais aussi et surtout le piment pour le piquant de la vie, pour les difficultés, pour les épines qu'on doit traverser ensemble. Et les témoins sont aussi là pour vous accompagner et puis pour vous aider à traverser tout ça. Alors, quand je dis les témoins, bien sûr, vous pouvez choisir toute autre personne pour vous accompagner si vous préférez que ce soit les frères et sœurs, si vous préférez que ce soit les parents, peu importe, ou simplement tous les deux, puisque c'est au départ, comme je le disais, un rituel qui se fait à deux. Mais voilà, dans tous les cas, c'est quelque chose que vous pouvez faire pour, qui est souvent quand même un petit peu fun et original, et pour symboliser tout ce que vous allez vivre ensuite et passer le test comme quoi vous allez traverser toutes ces épreuves ensemble. Et pour ce rituel du meilleur et du pire, moi je vous conseille donc d'avoir des verrines qui sont préparées à l'avance, avant la cérémonie, pour gagner du temps pendant la cérémonie. Et donc d'avoir un petit peu de liquide de chaque chose qui est versé dans chaque verrine. Donc par exemple, si vous êtes un couple avec 4 témoins, eh bien vous préparez 6 verrines de chaque goût, donc 24 verrines en tout. Prévoyez éventuellement des petites cuillères, des petites choses pour le miel ou pour les choses qui sont plus difficiles à manger ou à goûter. Prévoyez un verre d'eau après, ou de l'eau, ou du pain, ou du lait, parce que pour le piment, c'est quand même très utile. Vous pouvez prévoir des petits mouchoirs, des petites choses pour les aider aussi à s'essuyer. Et puis pour finir, si vous préparez en effet toutes ces petites verrines à l'avance, n'hésitez pas à les mettre dans des boîtes fermées, dans des petites valises ou autres. D'une part pour que ça fasse joli sur la cérémonie et que ça reste discret jusqu'au moment du rituel, mais aussi pour éviter que, parce que souvent les cérémonies sont quand même en extérieur, pour éviter qu'il y ait de la poussière, des saletés, des petites bêtes qui viennent rôder autour pendant la cérémonie. Le deuxième rituel dont je vais vous parler, on reste un peu dans le principe des goûts et des saveurs, c'est le rituel du cocktail. Alors, plein de façons de faire ce rituel-là. Et qu'on peut vraiment décliner de toutes les manières. Alors, pour vous expliquer, l'idée de base de ce rituel, c'est de mélanger des ingrédients qui vous représentent pour faire un bon cocktail. L'idée, c'est que chaque ingrédient représente votre personnalité, un aspect de votre personnalité qui est déjà fort, qui est déjà bon tout seul, mais quand on va les mélanger tous ensemble, c'est-à-dire quand on va unir votre couple, eh bien, ça va faire un mélange tonitruant, bon, délicieux, détonnant, peu importe. Et donc, on va faire un cocktail qui mélange tous ces ingrédients. Alors, l'idée, c'est quand même souvent de choisir un cocktail qui est déjà existant. Ça peut permettre de faciliter et d'être sûr que le goût final sera bon. Donc on peut choisir de la soupe angevine, du mojito, il peut y avoir plein d'autres choses selon ce que vous aimez, du punch, c'est ce qui fonctionne le plus aussi. Voilà, il y a plein de possibilités, surtout que dans beaucoup de cocktails, on peut choisir un peu les ingrédients qu'on souhaite et donc les adapter en fonction de vos personnalités et caractéristiques. Et donc ce rituel du cocktail est assez chouette parce qu'on peut le faire soit tous les deux, dans l'idée de vraiment mélanger vos ingrédients et au moment de votre union de trinquer tous les deux pour boire le mélange de vous deux et voir si finalement est-ce qu'il est bon ce mélange. Et puis ça peut être aussi l'occasion de soit le partager avec vos témoins, avec vos proches et parfois aussi avec l'ensemble de vos invités. Alors, ça veut dire que cela entraîne un petit peu plus de logistique parce que ça veut dire souvent de prévoir ce cocktail en amont dans des petites fioles pour chacun de vos invités et qu'il faut prendre le temps dans la cérémonie de le distribuer, que tout le monde en ait, d'attendre que tout le monde se soit servi pour trinquer tous ensemble. Mais c'est quand même quelque chose de très festif. Alors, pour les petits exemples, l'année dernière, j'ai accompagné un couple qui a fait un mélange avec des pois papillons. Et les pois papillons ont la particularité de changer de couleur selon l'ingrédient qu'on rajoute avec. Donc ça correspondait tout à fait aux mariés qui avaient envie que la cérémonie commence de façon un peu plus solennelle et finisse plutôt de façon un peu rock. Et donc nous sommes passés d'un cocktail qui était bleu au départ avec les pois papillons qui ont infusé et qui s'est transformé qu'en rajoutant les ingrédients au fur et à mesure, qui s'est transformé en violet. Que du coup, les mariés ont pu déguster avec leurs témoins, simplement leurs témoins pendant la cérémonie. Et ensuite, lors de la journée, il y avait un bar à cocktail où il y avait tous les ingrédients pour refaire ce mélange et que chacun puisse eux-mêmes apprécier le changement de couleur, les dosages, etc. Donc ça, c'était une première version. Une autre version qui s'est passée cette année, c'est que le cocktail était plutôt au tout début de la cérémonie. Où du coup, pour donner le ton, les mariés ont choisi de tout de suite distribuer un shot de punch à tous leurs invités, à trinquer tous ensemble pour commencer le début de la cérémonie et donc lancer les festivités. Un autre couple que j'ai accompagné cette année ont préféré plutôt faire par exemple une soupe angevine où ils ont fait le mélange pendant la cérémonie, de mélanger leurs ingrédients. Et à la toute fin de la cérémonie, on s'était organisé avec le traiteur pour qu'il amène des coupes de soupe angevine à tout le monde qu'on a distribué pendant la toute fin de cérémonie et qu'avant que les mariés sortent, ils ont pu comme ça faire un petit discours à leurs invités et ensuite trinquer avec tout le monde en sortant de la cérémonie. Voilà, il y a plein de possibilités. Le dernier en date, c'était plutôt une adaptation sous forme de shooter. Donc là, il n'y avait pas particulièrement de cocktail, mais plutôt dans cette idée de trinquer tous ensemble. Et donc, il y avait à disposition, après la cérémonie, un petit verre de shooter pour trinquer tous ensemble. Si bien que ça a donné des idées aussi à d'autres mariés que j'accompagne, que j'ai eu en rendez-vous il n'y a pas plus tard qu'une demi-heure, et qui me transmettaient l'idée de se prendre un verre de shooter juste avant d'énoncer leurs vœux pour leur donner du courage, parce qu'ils sont connus pour être assez... timide et pas à l'aise pour exprimer leurs sentiments. Donc ils se sont dit, on nous appelle quand même un peu les monsieur madame shooter de temps en temps, donc pourquoi pas prendre un shooter juste avant les vœux, ça fera rire tout le monde et nous ça va nous aider à nous détendre. Voilà. Donc voilà un petit peu l'histoire du rituel du cocktail qui peut tout à fait fonctionner pour n'importe quelle situation, que ce soit d'ailleurs aussi avec les familles, avec les témoins, peu importe. Et donc pour le matériel dont vous avez besoin pour ça, donc tout dépend un petit peu de si vous souhaitez le faire à deux, à plusieurs, avec tout le monde. Mais dans tous les cas, pour tous les deux, il vous faut bien sûr deux verres et puis de quoi mélanger les ingrédients, etc. Alors dans l'idéal, n'hésitez pas à déjà prévoir en amont de la cérémonie tous les ingrédients avec les bons dosages dans chaque bouteille et dans des petites fioles assez jolies pour que vous n'ayez plus qu'à verser et mélanger tout ensemble et que vous n'ayez pas à calculer le nombre de centilitres qu'il faut pour chaque chose. C'est avéré sur un mariage où ils avaient simplement rempli une bouteille d'un litre de chaque, de l'ensemble de l'ingrédient qu'il fallait mettre. Et donc, ils se sont rendu compte qu'un litre de rhum pouvait être un petit peu chargé pour l'ensemble du cocktail. Donc voilà, l'idée c'est d'avoir peut-être une bonbonne, un saladier, quelque chose pour mélanger tout, et puis ensuite pour reverser dans les verres afin de trinquer derrière. Une autre chose aussi, quand vous préparez en amont tous les ingrédients et que vous mettez parfois quelque chose au frais ou qu'il y a des choses qui doivent rester fraîches, attention du coup en préparant vos affaires de bien remettre dans une glacière pour que ça reste frais au bout ou de ne pas oublier les bouteilles dans le frigo. Voilà, c'est la petite anecdote pour un mariage qui s'est passé il n'y a pas très longtemps où le mojito s'est fait sans badoit. Et croyez-moi, sans badoit, je ne suis pas sûre que du coup le shoot soit aussi bon. C'était un petit peu costaud, mais au moins, ça leur a fait un bon souvenir et ils en parlent encore aujourd'hui. Et ils n'oublient surtout pas la badoit maintenant dans chaque mojito qu'ils boivent. Enfin, le dernier rituel dont je souhaitais vous parler, c'est le rituel des cadenas. Je ne le fais pas beaucoup, c'est pas quelque chose que je fais souvent parce que c'est quand même quelque chose qui demande un petit peu de logistique en amont. Parce que le rituel des cadenas, c'est l'idée de demander à tous vos invités de venir avec un cadenas, quel qu'il soit. À clé, idéalement, quoique ça peut être aussi à code, mais la symbolique fait que c'est souvent à clé. Et donc, aux mariés de préparer un grand cadre avec un grillage, quelque chose, ou toute autre forme d'objet, sur lesquels les invités vont venir accrocher un cadenas. Un petit peu à l'image du Pont des Arts à Paris, alors qu'il n'est plus exactement comme ça à présent, mais le Pont des Arts à Paris où les amoureux viennent du monde entier accrocher leur cadenas et jeter la clé dans la Seine. Là, l'idée, ce n'est pas de jeter la clé n'importe où, c'est de la garder peut-être, que chaque invité garde la clé, mais qu'ils viennent accrocher un cadenas sur un cadre. Alors, selon les goûts de chacun, cela peut faire une jolie décoration contemporaine à accrocher chez soi ou à garder. Ou si c'est sur un objet, ça peut être à présenter chez soi ou bref. Mais voilà, l'idée c'est que chaque invité puisse venir lui aussi fermer le cadenas. Alors pas particulièrement pour symboliser leur couple sur ce coup-là, mais plutôt pour symboliser leur présence, leur témoignage et l'idée que voilà, leur témoignage se ferme là, sera là et restera tout au long de la vie du couple de mariés. Et donc, ce rituel-là peut éventuellement prendre un peu de temps dans une cérémonie, parce que si tout le monde vient avec son cadenas, c'est quelque chose qui prend un peu de temps. Donc, il y a différentes possibilités pour l'intégrer sans que ça prenne sur le temps de cérémonie. Par exemple, vous pouvez mettre le cadre à l'entrée de la cérémonie et donc au fur et à mesure où les invités viennent s'asseoir et s'installent avant le début de la cérémonie, ils peuvent y venir accrocher leur cadenas à ce moment-là pour pouvoir accrocher tout et que tout soit fini à ce moment-là. Ça peut être aussi fait en fin de cérémonie, mais c'est souvent quand même un moment qui est... un peu plus speed, alors entre guillemets, mais il y a souvent soit des photos derrière ou le cocktail qui va ouvrir, donc ou des bisous à faire aux mariés, donc des félicitations. Donc ça peut prendre un petit peu plus de temps s'il y a aussi le cadenas à ce moment-là. Ce qu'il faut penser, c'est qu'il faut anticiper cet acte et donc ne pas oublier à demander quelques semaines avant à tous vos invités de ramener ce cadenas et de le rappeler plusieurs fois parce que du coup, les invités ne vont peut-être pas comprendre pourquoi, surtout si vous voulez garder la surprise, et donc vont vite oublier. Et puis, une fois arrivés sur place, le jour du mariage, lorsqu'ils arrivent avant d'aller s'installer, n'hésitez pas à demander à vos témoins ou à vos proches de faire le tour des invités et d'avant qu'ils aillent s'installer à la cérémonie, s'assurer qu'ils ont bien leur cadenas, qu'ils ont bien tout en main, que c'est pas resté dans la voiture, parce que c'est dans la cérémonie qu'on en aura besoin. Voilà, c'est pas une fois à la cérémonie qu'ils vont aller se lever pour aller chercher dans la voiture. Et la dernière possibilité pour ces cadenas, ce que j'ai fait le week-end dernier par exemple, c'est qu'on voulait quelque chose de beaucoup plus spontané, de plus fun, et surtout que les mariés voulaient voir les invités avec leur cadenas. Donc on ne pouvait pas le faire donc au début, puisque souvent les mariés ne sont pas encore arrivés et le cortège n'est pas fait. Et donc les mariés voulaient absolument voir qui mettait quoi, comment, les petites blagues qui auraient été faites, etc. Et donc, on a décidé que, de façon un peu plus spontanée et originale, que les invités puissent se lever à n'importe quel moment de la cérémonie pour venir accrocher le cadenas au cadre. Donc, là, c'est au début de la cérémonie que je leur ai fait passer un petit mot. Je leur ai expliqué la symbolique, ce pourquoi ils avaient un cadenas dans les mains, parce que la plupart ne savaient pas pourquoi. Et je leur ai dit que à n'importe quel moment, quel que soit le discours, quelle que soit la personne qui est en train de parler, que s'il y a un geste, un mot qui les touche, une intention, un moment, eh bien qu'ils puissent transmettre leurs émotions en se levant et en venant accrocher ce cadenas au cadre pour qu'ils puissent ancrer en fait le moment qu'ils venaient de vivre dans cet instant présent. Donc c'est comme ça qu'en fait tout au long de la cérémonie, eh bien on avait quelque chose d'assez dynamique, assez fun, parce que les invités se levaient, se rasseyaient, c'était un joyeux brouillon, un joyeux bordel, mais c'était ça qui était chouette, parce que du coup, au fur et à mesure, des mots qui étaient dits, que ce soit par moi ou par les intervenants, eh bien les mariés ont pu observer et voir qui avait été touché, qui avait été ému, qui avait envie à ce moment-là de faire un petit mot. Alors bon, on a eu quelques petites blagues parce qu'il y a dû avoir une chaussure qui a été accrochée, des petits mots, des petits sacs en plus, des cadenas. Mais je pense que voilà, c'était des petits clins d'œil pour les mariés que eux seuls savent, mais qui du coup permettent de garder des bons souvenirs. Donc voilà un petit peu. Alors pour le matériel, pour ça, comme je le disais, un cadre, du grillage, demandez à tous vos invités de venir avec un cadenas. Et puis, idéalement, un chevalet, quelque chose d'assez solide parce que en fait, au fur et à mesure où les cadenas vont s'installer, ça commence à être lourd derrière. Donc il faut que ce soit quand même assez solide pour que ça reste toute la cérémonie, voire après la cérémonie, si d'autres personnes viennent accrocher leur cadenas ensuite. Voilà. Donc voilà un petit peu les trois rituels dont je voulais vous parler aujourd'hui. J'espère que ça a pu vous donner des idées. Dans tous les cas, je le répète jamais assez, il n'y a absolument aucune obligation de faire des rituels. Ce sont simplement des exemples, ce sont des choses qui existent, mais il faut que ça fasse sens pour vous. C'est pourquoi, pour chaque rituel, vous avez vu que je vous ai expliqué différentes variantes, différentes idées qui ont été faites, tout simplement parce que les mariés ont pioché au départ dans des choses qui existaient, mais qui ensuite les ont complètement mis à leur image en fonction de leur histoire, de leur personnalité, de leur sensibilité, de leurs émotions, et ont complètement créé leur rituel à eux qui leur ressemble. Donc n'hésitez pas, vous aussi, si c'est quelque chose que vous avez envie de faire, qui fait sens pour vous et que vous ressentez au plus profond de vous-même, alors prenez le temps de chercher ce qui vous correspond le plus selon vos passions, votre histoire, tout ça, et d'aller creuser jusqu'à ce que vous trouviez le rituel qui vous convienne. Je vous laisse aujourd'hui sur cet épisode. J'espère que cela a pu vous aider ou vous donner des idées. Et je vous dis à bientôt pour une nouvelle session.
Cet épisode est terminé. Bravo et merci d'avoir écouté jusqu'au bout. Si cet épisode vous a plu ou qu'il a répondu à vos questions, merci de le partager autour de vous, de le noter sur votre plateforme préférée et d'ajouter un joli commentaire. C'est ainsi qu'il continuera de vivre et à faire son chemin auprès d'autres futurs mariés. Vous retrouverez toutes les infos de l'épisode sur mon site www.delevenementdanslair.fr et si vous avez besoin d'accompagnement, de conseils ou même d'un officiant, n'hésitez pas à m'écrire à hélène@delevenementdanslair.fr. Je suis Hélène pour le podcast 2 à moi et je vous embrasse.